Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Merci de nous suivre. Les obsèques du pape François se dérouleront bien ce samedi à 10h, place Saint-Pierre, devant la basilique du même nom. Les cardinaux qui ont aussi la lourde tâche d'élire son successeur dans quelques semaines étaient eux aussi convoqués aujourd'hui pour une première congrégation générale à l'issue de laquelle ils ont communiqué cette date. Avant les funérailles, le cercueil du pape, mort lundi à 88 ans, sera exposé à partir de demain matin 9h à la basilique Saint-Pierre où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. À noter également que le président russe Vladimir Poutine ne prévoit pas de se rendre aux funérailles du pape François prévues, je le rappelle, samedi. Et dans le reste de l'actualité internationale, la défense civile palestinienne a annoncé un nouveau bilan concernant les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza. Depuis la nuit dernière, au moins 25 personnes sont mortes dans différentes frappes menées dans plusieurs endroits de l'enclave palestinienne. A noter également qu'une personne a été tuée dans une nouvelle frappe israélienne visant le sud du Liban. C'est ce qu'a déclaré le ministère libanais de la Santé. En France, le parquet national antiterroriste est saisi de 13 faits commis entre le 13 et le 21 avril de cette année dans 9 départements. 3 faits visant des domiciles d'agents pénitentiaires, notamment dans le Lot. On dénombre aussi 21 véhicules incendiés, une dizaine d'autres dégradés. Le parquet rappelle qu'il est en lien avec les parquets locaux pour analyser la situation à chaque fois. Il en est ainsi pour les faits survenus la nuit dernière dans le Rhône, en Isère, ou encore dans le Calvados. Les 4 personnes interpellées après la fusillade qui a fait 3 blessés à Rennes jeudi dernier ont été mises en examen. 3 le sont pour tentative de meurtre en bande organisée, 1 pour trafic de stupéfiants. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce flash d'information. Place à votre tour d'horizon de l'actualité.
Radio Orient Focus.
Mise en place du protocole au Vatican, le cardinal Kamerlingue, chargé d'assurer l'intérim, a procédé au rite de la constatation de la mort dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où vivait le pape François. Ce rituel consiste à appeler 3 fois le prénom de baptême du souverain pontife. En l'absence de réponse, le décès est déclaré officiel et la nouvelle se répand. La dépouille du pape François a été embaumée, revêtue d'une soutane blanche, puis transférée dans sa chapelle privée avant d'être placée dans un cercueil de bois et de zinc selon son souhait de simplicité. Dès mercredi matin, le cercueil sera exposé à la basilique Saint-Pierre, ouvert aux fidèles pour un dernier hommage. Les appartements papaux, eux, sont scellés pour préserver ses effets personnels. Le point d'orgue des obsèques aura lieu samedi à 10h sur la place Saint-Pierre avec une messe solennelle présidée par le doyen des cardinaux. Des milliers de fidèles et des chefs d'État, dont Emmanuel Macron, sont attendus. Après la cérémonie, le cercueil rejoindra la basilique Sainte-Marie-Majeure pour une inhumation sobre, conforme aux volontés de François qui renonce à la crypte pontificale traditionnelle. Le Vatican entrera ensuite dans une période de deuil de 9 jours, appelée Novem Dialis, suivie du conclave. Les cardinaux s'enfermeront dans la chapelle Sixtine pour voter. À chaque tour, les bulletins sont brûlés. La fumée blanche annoncera alors l'élection du nouveau pape.
Radio Orient, Focus.
Et dans les prochains jours, l'Église va devoir organiser l'élection de son successeur, appelé conclave. Voici ce qu'il faut savoir sur cette procédure très codifiée.
Radio Orient, Focus.
Le conclave est donc l'assemblée qui réunit des cardinaux admissibles pour élire un nouveau pape. Il est convoqué de 15 à 20 jours après la mort du précédent pape. Celui-ci débutera entre le 6 et le 11 mai, ce qui permet aux cardinaux électeurs du monde entier d'arriver au Vatican. Cette réunion, elle se déroule à huis clos et ce sont 130 cardinaux sur les 252, âgés de moins de 80 ans, âge fixé par le droit canonique pour des raisons de santé, qui se réuniront pour élire le 267e pape de l'histoire. La majorité des cardinaux ont été nommés par le pape François. Pour être élu, un pape doit recueillir 2/3 des voix. Chaque jour, les cardinaux procèdent à 4 votes, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à la proclamation d'un pape. Après 3 journées sans résultat, le vote est suspendu et une journée de prière est prévue. Ensuite, d'autres séries de votes sont organisées jusqu'à l'élection finale. Lorsque la fumée blanche apparaît, c'est le signe que la majorité des électeurs se sont prononcés en faveur d'un candidat. Pour rappel, le conclave le plus long de l'histoire a duré 2 ans et 9 mois avec l'élection de Grégoire X. Il débuta en 1268 et se conclut en 1271. En attendant l'élection du nouveau souverain pontife, c'est le cardinal camerlingue irlandais Kevin Farrell qui assure l'intérim.
Radio Orient, focus.
Et pour évoquer l'héritage moral, mais aussi politique et humain du pape François, Arnaud Alibert, rédacteur en chef du quotidien La Croix, était l'invité de la rédaction.
Interview.
À Buenos Aires, ville natale du pape François, des catholiques se sont recueillis pour rendre hommage à un pape proche des pauvres. Le Vatican a diffusé des images du pape François dans son cercueil. Une pluie d'hommages depuis sa disparition, un sentiment de reconnaissance pour Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix.
Alors, la trace est immense. Je crois que jamais un pape aura tissé des liens aussi forts avec les communautés musulmanes, sans l'empêcher d'ailleurs d'avoir d'autres relations avec d'autres communautés croyantes, d'autres religions. Il n'en a pas fait une exclusive, mais... Il s'est servi du nom de François, référé à François d'Assise, qui est allé voir le sultan en son temps, donc on est là au XIIe siècle. Mais il s'est servi de ce nom de François pour aller au contact des communautés sunnites et chiites et rencontrer les plus hauts responsables pour nouer un lien de fraternité. Et un de ses grands textes, Tous frères, qui marquera son pontificat, a été directement inspiré de sa rencontre avec l'imam d'Al-Azhar au Caire. Donc le lien entre l'Église catholique et la communauté musulmane est un lien qui marquera son pontificat et même peut-être ce siècle, ce 21e siècle commençant dans les relations entre l'Église catholique et les musulmans.
Alors on a eu une pluie d'hommages depuis ce matin, et notamment le président palestinien Abbas qui a tout simplement adressé un hommage au pape François. On sait que le pape François aussi forcément s'était impliqué, voulait en tout cas mettre en place, promouvoir un message de paix dans le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, le président Mahmoud Abbas s'est sans doute exprimé en tant que président de l'autorité palestinienne, des musulmanes et des communautés chrétiennes. Je pense que ce à quoi il fait allusion, c'est l'immense sollicitude du pape François pour les chrétiens de Palestine, ce qui ne veut pas dire qu'il se désintéressait des musulmans de Palestine, mais on sait qu'il a eu un lien extrêmement fort avec les chrétiens de Palestine qui souffrent tout autant que les musulmans, en particulier dans l'enclave de Gaza. Donc voilà, je dis ça pour repréciser les éléments, mais je pense que d'une certaine manière, le fait qu'il nomme comme cardinal le patriarche catholique qui a en charge Israël, la Palestine, est un signe que le pape avait au cœur, enfin en tout cas près du cœur, la situation au Proche-Orient aujourd'hui.
Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix.
Interview.
Le pape François, un homme de dialogue, mais aussi de fraternité.
Interview.
Le père Vincent Feroldi, prêtre catholique, historien, directeur du service national pour les relations avec les musulmans de l'Église catholique en France, souligne que le pape François était un homme de dialogue et de fraternité.
Pour moi particulièrement, c'est d'une part son attention d'être ce qu'il appelait aux périphéries. C'est-à-dire qu'il lui semblait important que l'Église, telle il le disait, comme un hôpital de campagne, aille à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps, et en particulier ceux qui étaient les plus démunis. Et pour lui, c'était, et on se souvient par exemple, tout au début de son pontificat, il avait été à Lampedusa, c'est-à-dire toute la question des migrants, de ceux qui devaient quitter pour des raisons économiques, climatiques ou politiques leur pays et qui traversaient les océans au péril de leur vie, l'Église devait être présente. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important d'accueillir les réfugiés. Autre sujet de prédilection pour lui, c'était tout le monde des prisons, des personnes qui, malheureusement, à cause de ce qu'ils avaient pu faire, se retrouvaient en prison. Et ce qui est complètement émouvant, c'est que jeudi dernier, alors qu'il est encore malade. Chaque année, il allait quelques jours avant Pâques dans des prisons et il a tenu encore à y aller il y a quelques jours. Et donc, si vous voulez, il était vraiment pas seulement un homme de parole, mais d'acte. Et puis, le troisième domaine pour lequel il nous a vraiment marqué, et moi tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. C'est l'accueil, l'échange avec les croyants des différentes traditions, que ce soit la tradition juive, la tradition musulmane, la tradition bouddhiste. Et donc, c'était vraiment un homme de dialogue et de fraternité.
Père Vincent Feroldi, prêtre catholique.
Interview.
Et place au sport à présent avec Arthur Claude Savoie, évidemment.
Radio Orient, sport.
Cap sur un week-end de Pâques chargé d'émotions mais aussi de sport. 30e journée de Ligue 1 de football, derby entre Saint-Etienne et Lyon un peu spécial. Auteur d'un doublé, Lucas Tassin a failli bien être exclu après s'être appuyé avec son pied sur un tendon de Tolisso. Le Lyonnais est sorti sur civière mais Monsieur Le Texier, l'arbitre de la rencontre, a décidé de réévaluer le carton rouge en carton jaune. Juste avant la mi-temps, la rencontre a failli basculer et a été interrompue en raison d'un projectile lancé par des supporters qui a blessé un des arbitres assistants. Après 43 minutes d'interruption, le match a repris finalement. En seconde période, c'est Lucas Tassin encore une fois qui inscrira le but de la victoire pour Saint-Etienne. Score final 2-1 dans un derby plus que tendu. Marseille repasse à la deuxième place du championnat. L'OM était dans l'obligation de battre Montpellier, dernier de la Ligue 1. Score final 5-1 pour les Marseillais qui repassent devant Monaco au classement. L'équipe du Rocher était opposée à Strasbourg. C'est suite à un match nul 0-0 que les deux équipes se sont neutralisées et descendent dans le classement à la troisième place et à la septième place. Un résultat dont a su profiter Lille et Nice. Le LOSC accueillait Auxerre à Pierre-Mauroy. La rencontre s'est terminée sur un score de 3-1 pour l'équipe à domicile. Quant aux Niçois, ils se sont aussi imposés à domicile 2-1. Paris, déjà champion, s'est imposé non sans mal au Parc des Princes face au Havre 2-1. Pas de Ligue des Champions cette semaine, mais ce soir un match de rattrapage face à Nantes. Ce sera à 20h45. Hier, la Serie A annoncé le report des matchs prévus ce lundi en hommage au pape François décédé plus tôt dans la journée. Les rencontres concernées se joueront demain à 18h30. Maintenant, en place à la balle orange en NBA, les playoffs ont débuté ce week-end. On monte d'intensité et de niveau. Hier, les Detroit Pistons ont remporté leur premier match de playoffs depuis 2008. C'était face aux New York Knicks 100-94. Une autre belle rencontre, c'était celle entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard a sorti le grand jeu en inscrivant 39 points à 15/19 au tir. Les playoffs, ce sont aussi des matchs avec des hautes tensions où les esprits peuvent s'échauffer. Ça a été le cas hier soir lors de cette rencontre avec une altercation entre Jamal Murray et Norman Powell. Dans la nuit, à 1h du matin, vous pourrez retrouver les Pacers face aux Bucks. À 1h30, vous pourrez retrouver le premier de la conférence Ouest, Oklahoma, qui sera opposé aux Memphis Grizzlies. Et pour les auditeurs encore debout ou en vacances, à 4h du matin, les Lakers de LeBron James et Luka Doncic accueilleront les Minnesota Timberwolves. D'autres playoffs commencent dès ce soir en Euroleague. Paris, petit poussé de la compétition, se déplacera à Istanbul à 19h45. Pour la première fois, le club de la capitale va découvrir la post-saison dès sa première saison en Euroleague. Les Parisiens se sont fixés l'objectif d'accéder au Final Four. Une autre rencontre, c'est celle du Panathinaikos qui affrontera l'Anadolu Efes à 21h. Les deux équipes ont été championnes durant les 4 dernières années et les Grecs sont tenants au titre de la compétition. On ne peut pas se quitter sans l'anecdote du jour. Savez-vous à quelle vitesse peut aller un volant de badminton? La question a été posée dans une nouvelle rubrique Respire de l'équipe à Thomas Popov Junior. Vous y imaginez peut-être 100 km/h, peut-être 200, mais le record mondial est de 565 km/h. Mais comment atteindre les 500 km/h et encore plus? C'est en 2023 que l'Indien Satwik Saraje Ranki Reddy, ex numéro 1 mondial en double, a enregistré un smash à 565 km/h dans les locaux de Yonex au Japon, dans des conditions très singulières que raconte Eric Collet. Ce record a été réalisé dans un cadre impossible à retrouver en compétition. L'équipementier a installé une caméra ultra rapide beaucoup plus fiable que le système Hawk Eyes utilisé dans les tournois. Le badiste a frappé un smash descendant avec un volant neuf dans une trajectoire qu'il souhaitait. Ça n'arrive jamais pendant un match. Ces paramètres rêvés expliquent l'écart important entre les chiffres enregistrés en compétition et les records. Mais quand même, 500 km/h, ça ne doit pas être bon à prendre dans la tête. Merci d'avoir écouté votre émission sport. C'était Arthur Claude Savoie. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.